بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. شفاعة الإسلام لسمة الدنيا بإذن الله. On avait vu les commentaires de ce dernier verset de l'introduction du chapitre sur la confiance en Allah Azza wa Jal, et verset essentiel dans lequel il est cité beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'informations extrêmement enrichissantes sur le plan spirituel. Pour rappel, on avait vu que premièrement, dans ce verset, Allah Azza wa Jal cite les qualités des croyants. Innamal mu'minun. Et quand Allah Azza wa Jal parle des mu'minoun, ce sont ceux qui ont vraiment la foi, ce sont ces personnes qui ont atteint la perfection de la foi, ils ont atteint le degré de iman qui évolue par Allah Azza wa Jal. Quels sont les descriptifs de cette personne, de ce croyant? Alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Il y a une réaction lorsqu'on parle d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on évoque la grandeur d'Allah Azza wa Jal, cela touche directement leur cœur, parce que leur cœur est rempli d'amour pour Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qui fait que leur cœur est rempli d'amour pour Allah Azza wa Jal? C'est parce que c'est un cœur qui pense à Allah Azza wa Jal en permanence. Le mu'min qui fait le dhikrullah en permanence, que ce soit avec sa langue, avec son cœur, que ce soit dans la masjid, dans la mosquée ou dans les transports en commun, dans la voiture, dans les embouteillages, en marchant, en faisant la queue, les grandes surfaces, bref, quelle que soit la situation où on est, on fait le dhikrullah, on pense à Allah Azza wa Jal. Déjà, on est sûr que dans un même cœur, il ne peut pas y avoir la pensée d'Allah et la rafla et l'insouciance. Deuxièmement, dans un même cœur, il ne peut pas y avoir la pensée d'Allah et le désir ou le penchant vers le haram. Une personne ne peut pas faire le dhikrullah et en même temps faire quelque chose de haram, regarder quelque chose de haram ou alors écouter ce qui est interdit. Donc déjà, cette personne est en train de se prémunir contre tout ce qui est mauvais parce que son cœur est en permanence en train de penser à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui fait également que cette personne a un cœur rempli d'amour pour Allah? Parce qu'il ne manque jamais une occasion de se rapprocher de lui. Il respecte les ordres, les devoirs envers Allah Azza wa Jal, et il fait tout ce qu'il peut pour s'éloigner de tout ce qu'Allah a rendu haram. Donc cette personne-là a ce potentiel pour avoir un cœur qui tremble lorsqu'on parle de la grandeur d'Allah. إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Et je pense qu'on avait donné ces exemples la dernière fois parmi les pieux prédécesseurs, les tabi'in, atba' tabi'in. Certaines personnes avaient atteint un tel degré de khashiyatullah, de crainte d'Allah, qu'il suffisait qu'une personne lui disait « ittaqillah », que cela, c'était comme un séisme spirituel. Lorsqu'on leur disait « crains Allah, n'oublie pas la crainte d'Allah », ces personnes étaient saisies. Et certains, il y a des anecdotes, s'ils avaient quelque chose dans la main, l'objet tombait tellement ils étaient saisis de peur, parce que leur rappel concernant Allah Azza wa Jal, c'est un rappel qui les amène très loin. Ce n'est pas un rappel qui se limite à ce dunya. Ils pensent au regard d'Allah sur eux. Ils pensent qu'Allah sait ce qu'il y a de leur cœur. Et ils pensent surtout au moment où ils seront ramenés auprès d'Allah et ils auront à rendre des comptes à propos de leurs décisions, à propos de leurs choix, à propos de leurs actions. Mais ça, c'est un très haut degré, ça. Ça, c'est un haut degré de foi qu'il suffit de dire « ittaqillah » que la personne ressente la crainte d'Allah. Il suffit de lire quelques versets du Coran « وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِيهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا » que la foi augmente seulement lorsque la personne écoute les versets du Coran. Il ne s'agit pas là d'une compréhension de la langue arabe. Combien d'arabophones, combien de personnes qui comprennent l'arabe ne réagissent aucunement lorsqu'ils entendent le Coran? Combien d'arabophones ne sont pas musulmans? Il y a des personnes qui sont arabophones mais qui sont d'autres confessions. Et du coup, le Coran, s'ils devaient l'écouter ou le lire, ils comprendraient peut-être mieux que nous parce qu'ils sont arabophones. C'est leur langue, c'est la langue qu'ils maîtrisent. C'est Ummul Lugha. C'est leur première langue basique. mais leur cœur ne réagit pas. Il n'y a pas d'interaction entre leur cœur et les versets du Coran. Tout comme l'hypocrite, le munafiq, même si c'est un munafiq qui connaît un petit peu de ilm, il a un peu de connaissance, son cœur ne réagit pas à la lecture du Coran parce que c'est un cœur qui n'est pas réceptif. C'est-à-dire que on parle d'une finalité, arriver à un état où le cœur frémit à la pensée d'Allah et la foi augmente lorsqu'on lit le Coran. Mais ce n'est pas un objectif qu'on peut atteindre rapidement et facilement. Il y a tout un travail à faire. Et parmi les actions à développer pour arriver à ce degré spirituel, c'est la fin du verset qu'on n'a pas pu commenter la dernière fois, qu'on va le faire dans un instant. Et la troisième réaction, voilà, première réaction, le cœur frémit lorsqu'on parle d'Allah. Deuxième réaction qui caractérise les croyants, augmentation du iman lorsqu'ils entendent les versets du Coran. Et pourquoi cela? Ça aussi, je pense qu'on l'avait mentionné. Il y a deux réactions. Lorsqu'ils entendent les versets, ils ont encore plus de conviction sur ce qui est révélé. Et deuxièmement, lorsqu'ils entendent les versets, ils ont une intention encore plus ferme de les mettre en pratique s'il s'agit d'un ordre ou de s'éloigner de l'interdit s'il s'agit d'un interdit. Et donc, en première conclusion, les savants disent, pour atteindre ce degré de relation avec le Coran, cette interaction avec le Coran, il faut déjà avoir le cœur rempli de sincérité que, quel que soit le contenu du Coran qu'on entend ou qu'on étudie ou qu'on va lire, ben, on a envie de le mettre en pratique. C'est-à-dire avoir cet objectif qui dépasse la lecture, c'est essayer de vivre le Coran. Et là, il y aura une interaction entre le cœur et la lecture ou ce qu'on écoute. Donc, la deuxième réaction, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et la troisième réaction, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. On peut dire que ça, c'est la conclusion. Ça, c'est l'objectif final, qu'à chaque fois qu'ils entendent les versets, quand on parle d'Allah Azza wa Jal, la foi augmente et ils ont encore plus de confiance, de conviction en Allah Azza wa Jal. Ça nous fait comprendre déjà que ce niveau, التوكل على الله, c'est pas quelque chose qu'on peut réaliser rapidement. Il y a des étapes. Une des étapes, c'est avoir un cœur qui aime Allah. L'autre étape, c'est avoir un cœur qui aime la parole d'Allah. C'est un cœur qui a envie de découvrir et de connaître la parole d'Allah et de le mettre en application. Et avec ça, avec les efforts et les actions qu'on va citer, là, la personne peut développer la confiance en Allah Azza wa Jal, qui est un des objectifs essentiels de la vie du mu'min. Et c'est la concrétisation de « wa iyyaka na'budu ». Alors, quelles sont les qualités encore de ces personnes? Ça, on n'avait pas cité la dernière fois, c'était un peu long. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Les personnes qui, la traduction précise, ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent de le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. يقيمون الصلاة يأتون بها مستقيما بواجباتها وشروطها وأركانها إلى آخر التفسير. Les savants, les mufassirin, رحمهم الله, ils commencent le verset, c'est أي يكملونها بمكملاتها. C'est la personne qui accomplit la salat de façon la plus parfaite. C'est une salat qui atteint son objectif. C'est une salat qui est faite correctement avec ce qui doit précéder la prière en termes de préparation psychologique et spirituelle, en termes de dévotion, en termes d'ablution, le fait de venir tôt à la prière, le fait de se préparer pour ce grand moment qui est la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Cette personne qui donne autant d'importance à la salat, qui prépare sa salat. Et ça, c'est un point important. On va essayer de se rapprocher, Inch'Allah. On n'a pas besoin de parler trop fort, la voix se perd. Et plus on se rapproche dans une majlis, plus il y a la baraka. Cette préparation de la salat, ikhwani fillah, ça c'est un point très important. Parce qu'on est en train de parler d'une action qui n'est pas étrangère. On ne parle pas d'une action qu'on ne fait pas ou qu'on aimerait mettre en application. Non, c'est une action qu'alhamdulillah, si on est là ce soir, c'est qu'on est attaché à nos prières. Maintenant, on a besoin de retravailler la salat. Et ça c'est un élément, un point essentiel, c'est un élément qu'on doit intégrer. Toute action, toute bonne action que nous avons l'habitude d'accomplir, même si on le fait depuis des années et des années, on doit toujours être capable d'améliorer la qualité de ces actions. Ne jamais se suffire de notre niveau de tilawat al-Qur'an. ne jamais se suffire de notre niveau de dhikrullah, ne jamais se suffire de notre niveau de saum, de jeûne qu'on garde, le carême. Ne jamais se suffire de notre niveau de prière. Allah Azza wa Jal donne la possibilité vraiment, ikhwani fillah, de développer cette relation avec Allah Azza wa Jal, qui est un lien spécifique. Et c'est la seule umma qui a gardé ce lien depuis sa révélation. C'est la seule communauté qui a gardé ce lien permanent avec Allah Azza wa Jal depuis que cela a été révélé lors du voyage nocturne, et qui fait partie donc des piliers de l'islam. Dans certains hadiths, on parle du pilier de la religion, et c'est la première action à propos de laquelle nous serons interrogés le jour de Qiyama. Et le prophète nous a donné tellement de vertus, de récompenses, il nous a rappelé les récompenses que la personne qui les accomplit correctement, sans jamais les manquer, avec toutes les conditions, dévotion, concentration, il a une promesse de la part d'Allah de lui faire accéder au Jannah, de lui faire accéder au paradis. Et celui qui n'accomplit pas comme Allah le demande ou qui a des manquements, il n'a aucune garantie. Allah peut le punir ou Allah peut le pardonner. Autant d'importance, le prophète alayhi salatu wassalam a donné pour la salat, on doit comprendre que c'est un rendez-vous important avec notre Seigneur. Et ce qu'on a dit, nous sommes la seule umma, la seule communauté qui a un tel rendez-vous avec Allah. Déjà, notre iman billah, c'est le iman billah. Imanuna billah, c'est vraiment al-iman billah, comme Allah attend de l'être humain, de ses serviteurs. Et ce rendez-vous avec Allah, c'est le cadeau qu'Allah a accordé au prophète sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam, et qui est le meilleur moyen pour nous de communiquer avec notre Seigneur, de lui adresser les louanges et de lui demander les doigts. En commençant le Fatiha, en commençant par les louanges, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, les noms, les attributs d'Allah, Rahman, Rahim, Malik Yawmiddin, l'attestation que c'est toi qu'on adore et c'est auprès de toi que nous cherchons refuge, et les doigts les plus importants, le plus important, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Le mu'min qui arrive à le répéter, subhanallah, plus de 5 fois, 10 fois, 15, 20, 30 fois par jour avec les rawatib qu'il va accomplir, ben subhanallah, c'est vraiment un cadeau d'abord. Et ce serait dommage de manquer de considération et manquer de respect à cette salat. Et qu'Allah nous pardonne nos manquements, parce que nous sommes tous fautifs. Des fois, on arrive à la prière en retard, les dernières secondes, on fait les ablutions, on commence et imaginez, vous revenez d'une journée de travail ou alors vous étiez dans je ne sais pas quel, dans quel contexte, vous vous mettez directement sur le tapis de prière, vous commencez la salat. Pensez-vous que à la seconde où vous dites Allahu Akbar, vous arrivez à faire le vide spirituel? Très difficile. Très difficile. À moins d'être vraiment des, mashallah, un haut niveau de foi, qu'on arrive à transiter entre le dunya et la recherche du contentement d'Allah ou la recherche d'Allah en une fraction de seconde, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que les rawatib, les sunan qu'on accomplit avant la salat, c'est une préparation spirituelle. Également un apaisement du cœur. Et le mu'min qui a déjà fait ses 2 unités de prière ou ses 4 unités de prière avant de commencer la salat et qui attend l'arrivée du imam et qui va commencer la salat avec le takbir oula, en écoutant le début même de la fatiha de la première raka'at, assurément cette concentration, ben, elle va la trouver. Le khushu', l'humilité, il va le trouver dans la salat. Donc, l'accomplissement de la salat, c'est une des miftah, une des clés pour avoir ce degré de foi où notre cœur frémit lorsqu'on entend parler d'Allah, où le cœur réagit à la lecture du Coran et la foi augmente ainsi que la confiance en Allah augmente. La salat est une clé pour réunir ces 4 qualités. Parce que c'est 7 actions qui a été citée après ces qualités. Ce sont ceux, alladhina, et quand on dit alladhina, c'est le pronom relatif, ceux qui, c'est-à-dire description de ces personnes-là, ceux qui accomplissent leur salat. Ça, c'est la première action. Et, petite parenthèse, on a hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. C'est pas un hadith, ça s'appelle plutôt un mawquf, une citation d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dit que la qad ra'aytuna ya'ni ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiq aw marid ila akhir al-kalam. Ibn Mas'ud dit que à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, personne, aucun croyant ne manquait à la prière en congrégation, sauf l'hypocrite, le munafiq, ou alors la personne qui était malade. Et là, il détaille même, وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ. Et lorsqu'une personne était malade, on allait le chercher à deux. Il y avait 2 personnes qui allaient chercher la personne malade à sa maison, avec son accord, à sa demande bien sûr, et on le portait sur nos épaules, et il avançait appuyé sur les épaules, بين الرجلين, entre deux personnes, حتى يقام في الصف, jusqu'à ce qu'on le place dans les rangs, et là il pouvait démarrer sa salat. C'est pas qu'ils allaient les chercher de force. Il ne faut pas une lecture de rigorisme. Voyez comment est-ce que les musulmans vont chercher les malades, les imposer. Non, ça c'est la lecture que les médias ils font de l'islam. D'accord ? Nous, on a une lecture spirituelle. C'est shiddatul hub, l'attachement que les sahaba avaient pour la salat. Pour eux, c'était inconcevable de manquer ça. Il y a pas mal de citations de pieux prédécesseurs. C'est dans un autre kitab, c'est ce qu'on fait à Montreuil. On avait fait à Montreuil, c'est terminé. Sur les tabi'in, les atba'in, les tabi'in, les grands savants de l'islam, comment est-ce qu'ils étaient attachés à leur salat accompli en jama'at, en congrégation, au premier rang avec le takbir oula. Certains parlent de 40 ans sans avoir vu la nuque d'une personne dans leur salat. Ça veut dire que 40 ans, ils étaient au takbir oula. Ils n'ont pas vu la nuque d'un musalli. C'est-à-dire, ça c'est cet attachement. D'autres ulama de ce qu'on appelle le jarh wa ta'dil, les savants qui ont retracé la biographie des narrateurs de hadith pour voir est-ce qu'on accepte la narration ou on n'accepte pas, pour eux, la première chose à regarder, au-delà du ilm, des compétences, du hifz, de la mémoire de la personne à mémoriser les hadiths et à les répéter même une centaine de fois sans se tromper d'une lettre ou d'un verbe ou d'une préposition. Ça, c'est des conditions nécessaires pour être accepté comme narrateur. Avant tout, il regardait l'assiduité aux prières en congrégation au premier rang. S'il n'y avait pas ça, c'était amplement suffisant pour rejeter leur narration. Ça, c'était le degré de sélection. Et je vais peut-être vous faire sourire. Et au-delà de ces conditions, on est hors sujet, mais ça reste quand même intéressant de savoir quelle était la sélection vraiment pour accepter les narrations. Ce n'est pas n'importe qui vient dire « j'ai entendu tel cheikh rapporter tel hadith ». Aucunement, là, il s'agit de « kalam un nabi sallallahu alayhi wa sallam ». Il y avait une autre critère, « khawarim al-muru'a », c'était des règles de bienséance. Des règles de bienséance qu'on devait retrouver chez les narrateurs de hadith. Entre autres, ça vous fait sourire. Un rawi, ce serait un aïb, ce serait un manquement de voir un narrateur de hadith manger debout. Alors pour nous, ce n'est pas la fin du monde. Mais si on le voyait en train de marcher et en mangeant, khalas, on ne prend plus ses hadiths. Ça faisait partie des conditions de l'excellence. Parce que pour rapporter un hadith, il faut être, j'aime pas utiliser l'adjectif parfait, mais il faut frôler la perfection tant dans la foi, et Allah seul connaît l'intérieur bien sûr, dans la manifestation de la foi à travers les actions, le ilm, la connaissance religieuse, le hifz, qu'on appelle également al-dabt, la faculté à mémoriser le hadith, mais également le comportement général. Il faut que personne n'ait quoi que ce soit à reprocher à cet individu, même concernant ce qu'on appelle al-urf, les habitudes de la localité, il faut que la personne soit irréprochable et admirée de tous pour ses qualités spirituelles, humaines et ainsi de suite. Là, on acceptait ces narrations. Ça nous conforte dans notre acceptation des textes, dans le fait que ce que les savants ont authentifié, ils ont dit que c'est un hadith sahih, mais on peut le prendre franchement, les yeux fermés, avec toute tranquillité. Ça, c'est une protection qu'Allah a accordée à cette communauté, qu'il n'a accordé à aucune autre communauté. Et ça nous montre également que notre prophète alayhi salatu wassalam a eu les meilleurs des compagnons. Et que les compagnons ont eu les meilleurs des compagnons. Et que les compagnons des compagnons ont eu les meilleurs des compagnons. Et ça s'arrête à là. Les trois générations glorieuses. Pas les 30 glorieuses, mais les trois générations glorieuses. Et après ces trois générations, ou pendant la dernière, enfin la troisième, il y a eu Nasr, les personnes, les grands savants qui ont commencé à mettre par écrit les hadiths et à se les transmettre. Là après, les chaînes de narration étaient beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles. Donc, l'attachement que les sahaba avaient pour la salat, c'est ce qui fait également qu'ils avaient atteint ce degré de iman. Deuxième qualité, après en commentaire, celui qui fait le charh explique, c'est un contemporain qui fait le commentaire de ce hadith, il dit que « Amma kathirun minan nas al-yawm » c'est malheureusement, à notre époque, si on analyse la umma, la majorité des gens « yatakasaloun wa yata'akharoun an salatil jama'a » qu'Allah nous protège et nous pardonne nos manquements. Beaucoup de gens font preuve de paresse ou alors même s'ils viennent à la salat, ils viennent en retard. C'est-à-dire qu'on ne donne pas suffisamment de considération à la salat en jama'a. Alors qu'encore une fois, on répète, pour les pieux prédécesseurs, c'était une qualité essentielle, pas pour juger quelqu'un, mais pour accepter ses narrations. C'est-à-dire, pour ça, c'était représentatif de ce qu'il y a dans son cœur. Et dedans, c'est Allah qui juge. Mais le fait que la personne soit là tout le temps au premier rang, ça prouve que dedans, il y a l'amour pour Allah. Ça prouve qu'intérieurement, il y a un attachement pour le dîn d'Allah. Et s'il n'est pas là, c'est que cet attachement n'y est pas ou il n'y est pas suffisamment pour que le considère comme quelqu'un de, entre guillemets, de pieux dont on pouvait accepter les riwayat, les narrations. Et également, l'autre commentaire, l'autre constat que ce cher y fait, il dit que walau qaranta, et si on compare les prières du matin avec la prière du Fajr, on verrait malheureusement une énorme différence. Si on compare la salat de Maghrib dans n'importe quel masjid, salat de Maghrib, mashallah, il y a trois fois plus de monde que la salat de Fajr. On aurait plutôt dire malheureusement dans la salat de Fajr, il y a trois fois moins de monde que lors de la salat de Maghrib, alors que c'est le même rendez-vous avec Allah, c'est la même relation, ce sont normalement les mêmes personnes. C'est que dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, il nous a annoncé, il nous a expliqué quelque chose qui nous remet un peu en question et qu'Allah nous protège de cela, que deux prières sont lourdes pour l'hypocrite. Quelles sont les deux prières? Fajr et Isha, qu'Allah nous protège. Si, ô musulman, tu sens que la prière de Fajr est lourde et qu'on n'a pas envie d'y aller, c'est qu'il y a un peu de nifaq, d'hypocrisie dans le cœur, et là il faut faire très attention. De même, une petite conclusion que j'avais oublié de faire concernant l'augmentation de la foi lorsqu'on entend les versets, et me semble que ça on l'avait précisé, savant dit c'est une conclusion qui, c'est un peu chaud, c'est un peu violent de le dire comme ça, mais dit que si à l'écoute des versets du Coran tu sens une poussée de iman, une augmentation de foi, c'est que, mashallah, tu es dans le droit chemin, tu as les qualités intérieures. Mais si à l'écoute des versets du Coran, on ne ressent strictement aucun changement, aucune envie de se rapprocher d'Allah, de faire encore plus de bonnes œuvres, ou de prendre la résolution de s'éloigner du haram, c'est que intérieurement il y a un gros manquement et que notre cœur est malade. Et Allah seul sait combien parmi nous avons le cœur malade. Certainement, la plupart d'entre nous avons un cœur rempli de maladies spirituelles. Et pour évacuer cette maladie spirituelle, les savants disent également qu'il y a un effort. Bien sûr, il y a un effort à faire. Comme pour n'importe quel projet, on a besoin de faire un effort. Et le premier pas, certainement, c'est ce qui est cité et qui rejoint d'autres hadiths qui vont dans ce sens. Le premier effort qu'on pourra faire pour purifier le cœur, pour soigner notre cœur, c'est l'effort concernant la première obligation envers Allah, c'est la salat. Vous voulez un changement radical? Radical dans le sens de profitable. Attention, pas de lecture comme les médias, ils font radical, égal radicaliste, égal grande barbe, égal institut, c'est pas ça. Si on veut un changement réel, un changement profond, qu'est-ce qu'on appelle un changement profond? C'est quelque chose, c'est un changement, c'est un apport spirituel qui va changer notre vision de la vie, et on va comprendre réellement nos devoirs envers Allah Azza wa Jal. Pas un changement temporaire, le mois de Ramadan, on fait plein de choses et après on s'éloigne d'Allah. Non, un réel changement, il faut faire un effort. Et cet effort, premier pas à faire de cet effort, c'est la salat. Si on veut vraiment avoir ce changement en nous, on commence par faire des efforts dans l'accomplissement de la salat. Comme on a dit, qu'on arrive 10 minutes avant le début de chaque salat, qu'on soit là au premier rang 10 minutes ou même 5 minutes à attendre la venue du imam, parce que la personne qui se trouve dans la masjid, dans la mosquée, en état d'ablution et qui attend le début de la salat, ou mieux encore, une personne qui, mashallah, reste dans la salat, dans la mosquée, en attendant, en cumulant les salats, il attend la prochaine salat, tant que la personne est dans la masjid concentrée, les anges font doua pour cette personne. Tu restes assis, les anges continuent à faire des doigts tant que tu restes concentré. Subhanallah, et imaginez le niveau des doigts des malaïques. Aujourd'hui, quand on voit un homme pieux, entre guillemets, pieux et Allah seul, c'est qui sont les pieux, on va tout de suite voir faire doigts pour nous, doigts pour moi, doigts pour mes enfants, et ainsi de suite. Mais ce n'est qu'un être humain. Son doigt et le doigt que tu fais, subhanallah, c'est. On ne peut pas dire quel doigt est plus accepté. Allah est proche de nous quand on demande. On a parfois tendance à trop sacraliser les gens. On voit quelqu'un, ah lui c'est un homme pieux, c'est un. Yahi, Abdullah, serviteur d'Allah. Et Allah seul les juge. On n'a pas à dire que lui c'est un grand, lui c'est un moyen. Il y a peut-être une personne qui. Oh, ça, c'est un discours qu'on a déjà tenu plusieurs fois. Personne qu'on n'imagine même pas son degré auprès d'Allah. Il est exceptionnel parce qu'il vit des épreuves que l'homme pion, guillemets, ne connaît même pas. Il n'imagine même pas c'est quoi ses difficultés, ses épreuves. Donc, Très souvent, on a envie de demander aux savants, aux grands, entre guillemets, de faire du'a pour nous. Mais imaginez qu'on obtient les du'a des malaïka parce qu'on reste assis dans la masjid en état d'ablution. Yani, ce sont des récompenses qu'on peut avoir facilement, mais il y a un effort à faire. Pas évident, ça. Si une personne n'a pas l'habitude de venir tôt à la salah, du jour au lendemain, il se dit, ben, 15 minutes avant, c'est la salah à 20h30, ben, 20h15, je quitte mon domicile pour être là, après, il dépend où est-ce qu'on habite, pour être là à 20h20, c'est un effort à faire. Et c'est quand il y a sacrifice, c'est quand il y a l'effort qu'il y a qaboul et acceptation. Allah aime voir ce serviteur qui est sincère et qui fait des efforts pour lui. Qu'Allah nous donne la possibilité de faire cet effort. Si on se pose la question mutuellement, quel effort allez-vous faire durant le mois de Ramadan qui approche à grands pas? Vous trouvez la lune, on dirait, non?
Oui.
Trouvez à la Réunion?
Oui.
Sûr?
Oui.
Masha'Allah. On est à quel mois, alors?
Jamal
al-Thani, ou le Khara, Masha'Allah. C'est-à-dire, après, ça va aller vite, là. Entre Rajab, Sha'ban, Subhanallah, on ferme le livre, on commence, on entend William Zé dire que, voilà, Salat al-Tarawih sera officié par telle personne. Ça va aller très vite, Subhanallah. Si on se pose la question mutuellement, quelle action on a l'intention de faire de différent, je veux dire, quel progrès spirituel on a l'intention de faire durant ce Ramadan. Au-delà du jeûne, au-delà du suhoor, au-delà de la rupture du jeûne, au-delà de salat al-tarawih et au-delà de la lecture du Coran et des du'as qu'on fait avant la rupture du jeûne. Ça, ce sont les actions qui composent la journée du Ramadan et la nuit du Ramadan. Mais en plus de ça, on pourrait, et qu'Allah nous accepte, ou ceux qui le font déjà, passer à autre chose, à un autre niveau bien sûr. Mais à un niveau bas comme le nôtre, on pourrait se dire et demander dès maintenant, Allah Azza wa Jalla, Ya Allah, donne-moi la possibilité, par exemple, durant ce mois béni, que je puisse accomplir les 5 salats au premier rang. Et avec le takbir oula, d'être présent 10 minutes avant le début de la salat. Si on peut cumuler ça pendant tout le mois de Ramadan, ranim, quel trésor on obtient. On essaie de le faire. Après, Allah Azza wa Jalla connaît les personnes qui sont au bureau. À cet instant, ils sont au travail, ils ne peuvent pas. Allah nous récompense en fonction de l'intention, innamal a'malu binniyat, et en fonction de l'effort et du sacrifice. Parce que si Allah devait nous récompenser en fonction du résultat, on n'aurait pas grand-chose. Si la récompense pour nos prières, c'était par rapport à notre degré de concentration et de dévotion, Allah musta'an. Il n'y a peut-être pas une personne dans une mosquée remplie qui peut faire une prière correctement. Un des petits signes de Qiyama, le prophète cité à la fin d'une époque où dans une congrégation, une salah, un jama'a kamila, il n'y a pas une personne qui a le khushu', qui a la dévotion. Et dans les petits signes de Qiyama, c'est cité également, c'est une des premières qualités intérieures qui vont disparaître de cette umma, la dévotion. La dévotion, et on pourrait rajouter avec ça la concentration dans la salah qu'Allah nous protège. Donc, ça c'est un effort qui est qu'on peut faire. C'est un petit sacrifice dans notre temps. Un sacrifice de quitter un peu plus tôt notre domicile, qu'Allah nous donne la possibilité de le faire. Ça, c'est un pas important pour avoir ses qualités, pour se rapprocher d'Allah, pour avoir enfin un cœur qui frémit, qui bouge pendant. Imaginez ce cœur, ou cette personne qui, 5 fois par jour, sacrifie de son temps. Il se lève plus tôt le matin pour venir. Mais autant qu'il s'approche d'Allah, Allah ne va pas se rapprocher de lui. Quel est le hadith Qudsi qui nous remplit le cœur de joie? Le serviteur qui se rapproche de moi, d'un pas, Allah se rapproche de lui de 2 pas. Connais le hadith, très connu. Celui qui se rapproche, qui vient vers Allah en marchant, Allah Azza wa Jal vient vers lui en courant. Métaphore qui veut dire que vous faites un effort, Allah t'ouvre les portes de l'acceptation. Allah nous juge et nous rétribue, encore une fois, on le répète, par rapport à notre intention et par rapport aux efforts et aux sacrifices et aux premiers pas. Et la salat en congrégation, comme on l'a expliqué, ce serait un pas essentiel. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون et donc qui dépensent dans le chemin d'Allah et ينفقون أموالهم في مرضات الله وحسب أوامر الله. Cette personne dépense ses biens comme Allah Azza wa Jal lui demande. Et on va pas s'étaler sur le infaq fi sabilillah. On pourrait résumer en un hadith. Quel est le hadith qu'on a besoin de retenir concernant le monde? Hadith des anges. Tous les matins.
Un ange tous les matins qui vient, qui fait Elan.
Le Elan stipule. Hey, wa barakallah fi. Chaque matin, il y a un ange qui fait Elan. Ya Allah, accorde plus de bénédictions à celui qui donne. Et Ya Allah, reprend ou retient pour celui qui retient sa main. Ça veut dire que le mu'min doit absolument faire Ihsan envers une personne tous les jours. Et ça, c'est une solution. Ça, c'est la clé de la baraka. D'accord? Donc, cette action, combinée avec la ferveur et l'accomplissement de la salat, ce sont des actions qui sont spécifiques au mu'min, et avec ces actions-là, il pourra trouver ce degré de iman. Parce que les savants expliquent que as-salat, c'est istislamu jasadika wa waqtika lillah. La salat, c'est soumettre ton corps, ton esprit et sacrifier ton temps pour Allah. Et le mun, c'est soumettre ton hubbul mal, qui est quelque chose de tabi'i, qui est quelque chose de naturel. L'attachement que tu as pour tes biens, ben c'est tu soumets cette passion-là et tu veux passer le droit d'Allah avant ce que ton cœur te demande. Ça, c'est l'esprit de sacrifice dans le monde, que ce soit la zakat ou la sadaqa. Donc, ces deux actions combinées nous permettront d'atteindre ces hauts degrés. Et en conclusion, quelle est la récompense maintenant dans l'au-delà? Parce que le ziyadatul iman, l'augmentation de la foi, le fait que le cœur frémit lorsqu'on parle d'Allah Azza wa Jal, et la confiance en Allah qui augmente, ce sont des apports spirituels, sans le moindre doute, qui nous seront profitables pour mieux vivre dans ce monde, pour mieux avancer dans cette grande épreuve qui est Hayat Dunya. Maintenant, les récompenses, la délivrance et la rétribution auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est premièrement cette attestation. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Allah Azza wa Jal atteste, ce sont là, en toute vérité, les croyants. Et les croyants, ils auraient dû traduire les vrais croyants. Haqqa. Déjà, on a l'attestation d'Allah Azza wa Jal. Si je réunis cette qualité, je peux être tranquille. J'ai une attestation qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal à mon niveau. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Première récompense, première rétribution à eux, des degrés élevés auprès de leur Seigneur. Allah Azza wa Jal annonce que le degré est déjà darajat, des degrés élevés, et deuxième qualificatif de ce degré, 'inda rabbihim, auprès d'Allah. Et quelle plus grande bishara, quelle plus grande bonne nouvelle que de savoir que le jour de Qiyama, on sera proche d'Allah. Quelle est la situation la plus proche d'Allah Azza wa Jal le jour de Qiyama? Être sous l'ombre de son trône. Et quel est l'emplacement où on est le plus proche d'Allah? Dans le Jannah? Être dans le Firdaus al-A'la min al-Jannah qu'Allah nous l'accorde. Parce que le toit du Firdaus, c'est le trône d'Allah Azza wa Jal. Donc, lahum darajat au degré 'inda rabbihim, auprès de leur Seigneur. Deuxième récompense, wa maghfira. Wa maghfiratun, ainsi qu'un pardon. وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, et une dotation généreuse. Voilà donc les promesses d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah a la possibilité de réunir ces qualités, de faire les efforts sur les prières, de faire les efforts dans le infaq, dans le fait de soit donner de le chemin d'Allah, soit venir en aide à un frère qui est en difficulté, soit donner une bouchée de nourriture à quelqu'un qui en a besoin, soit parfois même un sourire à notre niveau, si on ne peut rien donner, un sourire ou un bon conseil, ou enlever quelque chose qui est nuisible du chemin. Je vous donne une bonne action. Si quelqu'un peut le faire ce soir, ça c'est une piste ça. Hein. Je vous donne un endroit, vous allez trouver un... Comment s'appelle le petit bébé John là? Pokémon? C'est pas un Pokémon, je vous donne pas l'emplacement d'un Pokémon. C'est déjà démodé ça. Vous avez vu comment ça vient, ça va? Hayat Dunya. Tout le monde en parle, on vit que pour ça. J'ai des adultes téléchargés devant moi, Pokémon, ils jouent. Je dis, bande d'imbéciles. Intérieurement, je dis, bande d'abrutis, bande d'idiots. Vous faites quoi? Vous êtes en train de perdre votre temps. On voit quelqu'un qui mange de la riz, qui fait comme ça, dit, A'oudhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. J'ai envie de dire, ruqya de la personne. Waqul rabbi a'oudhu bika min hamazati ash-shayatin, wa'oudhu bika rabbi an yahdhurun. Mais non, il est en train de chercher des Pokémon. Il fait déjà, s'il vient près de la mosquée, il vient près de la mosquée de Saint-Pierre, il y avait énormément de Pokémon, vous saviez? C'était l'endroit, un des endroits où il y avait le plus de Pokémon. Et on voyait sur Facebook et des musulmans qui viennent, qui cherchent des Pokémon et qui oublient la salah. Yani, waswasa min ash-shaytan. Quand Shaitan il veut t'occuper, il t'occupe. L'objectif, c'est d'occuper, de prendre ton temps. Même s'il ne t'emmène pas faire le zina à Saint-Gilles, mais le but, c'est de te prendre de ton temps parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux pour le mu'min. On revient, une bonne action, si quelqu'un a la possibilité de le faire, j'allais le faire, mais je ne l'ai pas fait tout à l'heure, près de la madrasa, où il y a le grand arbre, vous voyez, comme un, je ne sais pas comment ça s'appelle, un chêne, j'étais garé là, et quelqu'un a tiré la dalle. Il y a une dalle, et si, et comme ce n'est pas éclairé, ça fait des mois que la mairie ne met plus la lumière, et là, c'est une autre histoire, si quelqu'un ne voit pas, il tombe, et c'est des égouts, on en a pour 2 mètres, et si c'est un enfant, qu'Allah protège, et c'est une dalle qui est très lourde. D'accord? C'est pas les petits trucs en rond là, c'est Si quelqu'un peut faire ça, subhanallah, ça c'est vraiment une bonne action. C'est juste à côté de la madrasa, à côté du gros chêne là. Donc ça c'est une piste, ça fait partie également des sadaqas, des aumônes qu'on peut accomplir. Taïb, qu'Allah donne la possibilité donc d'être assidu de nos prières et de développer cette qualité qui est également l'aumône pour arriver à ce degré de foi. Allahumma amin. Combien de temps il nous reste? Bismillah, 5 minutes. On peut juste lire le prochain hadith et après on verra ça inshallah prochainement. Le hadith qui est extraordinaire, on va juste lire le matin. Khair inshallah. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الحديث très long. On va lire l'explication et la prochaine fois on verra en détail. Ce hadith, même pas la traduction, on va aller plus vite. Ce hadith parle de la vision qu'aura le prophète عليه الصلاة والسلام, une des premières visions du prophète عليه الصلاة والسلام, يوم الحشر, le jour de la résurrection. Le prophète alayhi salat wa sallam explique que le jour de la résurrection, je vais voir des prophètes, mes frères prophètes. Et en fait, ce n'est pas qu'il va voir. Il va voir, mais il l'a vu. Allah l'a fait voir quelque chose qu'il verra. Il a eu une vision de ce qu'il va vivre le jour de Qiyam. Et parmi ce qu'Allah lui a fait voir concernant la vision de l'au-delà, c'est qu'il y aura des prophètes, وَالنَّبِي وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ, que certains prophètes auront avec eux un homme ou deux hommes. C'est-à-dire une seule personne qui a accepté sa mission ou uniquement deux personnes. وَالنَّبِي لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Et il y aura parmi mes frères prophètes des prophètes qui seront seuls. C'est-à-dire qu'ils ont prêché, ils ont propagé, ils ont été sincères de leur mission et tous les prophètes ont ces qualités. Parce que les prophètes, ce sont des personnes qui ont été choisies par Allah Azza wa Jal. Et ça, on ne va pas rentrer dans les commentaires, ça nous permet de comprendre qu'Allah n'attend pas forcément le résultat, la quantité. Comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas la quantité, le résultat. Allah te juge et te rétribue en fonction de ton ikhlas, de ta niya, de ta sincérité, de tes intentions et des efforts. Regarde le prophète Nuh alayhi salam. Combien de temps il a invité vers Allah? Alfa sanatin illa khamsina ama. 1050, c'est-à-dire 950 années, Nuh alayhi salam a invité vers Allah azza wa jalla. Et wa ma amana ma'ahu illa qalil. Peu de gens. Alors que Nuh alayhi salam, et c'était parmi les plus grands des anbiya alayhi salatu wa salam. Nuh alayhi salam fait partie des cinq grands prophètes qui sont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam et Nuh alayhi salam. Les cinq plus grands prophètes de l'histoire de la prophétie. Mais Allah n'a pas décrété qu'il fait partie des grands prophètes par rapport au nombre de atba'a, mais par rapport à son engagement et des qualités qu'Allah seul le sait. Donc, Nuh alayhi salam aura très peu de gens avec lui. Et le prophète salam explique qu'il va, on lui dira, il va voir une masse de personnes, ce sera noir de monde. Et il va avoir cet espoir que ça c'est ma umma. Parce que le prophète salam sera fier d'avoir la plus grande communauté le jour de Qiyam. On lui dira, hadha Moussa wa qawmu. Ça c'est Moussa alayhi salam et son peuple, les Banu, c'est Banu Israël. Walakin unzur ila al-ufuqi. Regarde plutôt de ce côté. Fanadartu faïda sawadun azim. Faqila li unzur ila al-ufuqi al-akhar. Regarde là-bas maintenant. Faïda sawadun azim. Il va voir un endroit, sera rempli de gens. Et il va dire maintenant, regarde là-bas, sois rempli. Faqila li hadhihi ummatuk. Ô Muhammad, voilà ta ummah. Et le prophète alayhi salat wa salam sera satisfait de voir qu'autant de personnes après lui ont attesté la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et ça, c'était la promesse d'Allah que ce dîn va franchir les frontières de l'Occident à l'Orient, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Il n'y a pas un endroit où ce message ne parviendra pas. Ça, c'est la promesse d'Allah. Et malgré l'époque où il y aura jamais une religion n'aura été aussi combattue que l'islam. Jamais une umma, une communauté, ne connaîtra autant de troubles, autant de fitna que notre communauté, parce que nous allons vivre, enfin, Inch'Allah, pas nous, mais les futures générations vivront les grands signes de Qiyama et la fin du monde. Et malgré ça, il n'y a pas une communauté qui sera plus nombreuse que celle de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'a dit, pas nous, plus nos descendants, je ne vais pas dire nos enfants directement, mais l'objectif c'est de ne pas vivre les grands signes de Qiyama. Qu'Allah nous protège de vivre les grands fitnas de la fin des temps. Parce que déjà avec les quelques fitnas qu'il y a, on voit comment ça nous perturbe. Qu'Allah nous protège, protège nos enfants, nos petits-enfants, et que les personnes sur lesquelles ces jours difficiles vont arriver, ben qu'Allah leur accorde le sabrun al-ta'a et les plus grandes récompenses. Donc il va voir sa communauté, et là c'est déjà un contentement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallam se rappelle des périodes à Mecca, hein, les premières années de Mecca où il y avait Abu Bakr al-Siddiq, il y avait Khadija, il y avait Ali ibn Abi Talib, il y avait quelques personnes et le peu de croyants étaient persécutés. Et là, il a la plus grande communauté qui est ressuscitée. Et là, il recevra la bonne nouvelle. وَمَعَهُمْ هَذِهِ أُمَّتُكْ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابْ اللَّهُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ. Et on annoncera la bonne nouvelle au prophète que parmi cette umma, il y a 70 000 individus qui vont entrer dans le Jannah sans rendre compte et sans être châtiés. Et ça, c'est la bonne nouvelle que le prophète recevra dès le début de la résurrection. Et ça, c'est un dua qui doit faire partie de nos dua yawmiya, de nos dua du quotidien. Oh Allah, accorde-moi une place parmi les 70 000 personnes qui vont entrer dans le Jannah sans rendre compte. Ya Allah, accorde-moi une place parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre de ton trône. Ça doit être nos véritables sources de motivation. C'est ça qui doit être le plus important pour nous. Et puis tout ce qui se passe autour, ce n'est que dunya, ce n'est que prédestiné. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde la compréhension de ces quelques paroles, qu'Allah nous accorde la compréhension des priorités. Pardonne nos manquements, pardonne nos erreurs. Nous sommes des êtres humains et c'est de la nature de l'être humain que de se tromper et que d'accomplir des péchés. Et Allah Azza wa Jal aime voir ce serviteur qui, après s'être trompé, demande pardon et revient à Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous accorde cette qualité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin.